faire entendre sa voix dans son lieu aujourd'hui en tant qu'artiste Françoise?
Ah bah oui, évidemment. Double titre, hein, c'est mon métier.
Dans l'engagement de la société, parce que voilà, moi je trouve que c'est on fait de la danse hip-hop, ouais, même on fait
et
du
donc,
hip-hop.
Du coup, je suis en train de mettre en place, c'est pas une révélation ce que je vais vous dire, mais c'est un nouveau projet qui est un projet de solo à deux qui va faire état de la question de la transmission.
Principal de notre compagnie, c'est des spectacles engagés et de, au moins de, d'éveiller les consciences. Voilà,
merci Fred. Et puis alors. Il y a un vrai parti pris, en tout cas.
Ouais.
Un vrai positionnement.
Il y a quelques
posture,
années encore.
Ça, c'est ma réflexion, puisqu'on est dans une conversation aussi avec le hip-hop, de la scène, notamment chorégraphie française. Il y a quelques années.
Oui, très bien. Encore,
tout à fait. Et pour citer un autre Frédéric.
Il y en a.
Il me semble que nous sommes contemporains.
Nous sommes une culture contemporaine. Ouais. Une culture contemporaine qui peut être aussi imprégnée par des...
Et de me mettre en difficulté, comme je l'ai toujours fait dans mon travail de création.
Exactement. En fait, documenter autrement. Parce que déjà, en tant que chorégraphe, ton travail, ta création documente déjà. Elle documente sur le monde, sur les questions qu'on se pose, sur le monde, notre rapport au monde, à la société. Une autre façon de documenter aussi. Non.
Oui, et puis, moi j'aime bien l'expression qui dit il y a l'histoire qui appartient aux dominants, et il y a les mémoires qui témoignent de certaines réalités qui ne sont pas véhiculées dans les médias principaux.
Ah, d'accord.
Une société sans culture, c'est impossible.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce podcast à la bonne heure, conversation avec le hip-hop. Dédié, comme vous le savez, à toutes celles et ceux ayant un lien de près ou de loin avec la culture hip-hop. Culture dans laquelle on y puise matière à penser et à créer. Aujourd'hui, mon invité est une figure lyonnaise de la culture hip-hop, un activiste, dont l'engagement débute au cours des années 80 en Guadeloupe. Basé aujourd'hui à Vaux-en-Velin, il est à la direction de l'association FEDOVO, Fédération Vaudaise du Hip-Hop et des Cultures Urbaines. Il nous donnera plus de détails sur cette activité. Rappeur, compositeur, producteur, entrepreneur, passeur de culture, il est un tout et consacre une partie de son temps à la transmission des valeurs du hip-hop auprès des jeunes des quartiers, tels qu'à travers des ateliers d'écriture socio-éducatifs au sein de maisons de quartier, mais pas seulement. Tout ceci, il le situe dans la fonction sociale du hip-hop. Il a aussi une référence à laquelle il est très attaché, c'est du Temple of Hip-Hop par KRS-One. Il aura également l'occasion de nous en parler. J'ai donc le plaisir de recevoir Rudy Bouaille. Salut Rudy, comment tu vas?
Salut, ça va Fred?
Eh bien écoute, je vais bien, je te remercie de ta présence, d'être là, d'avoir fait le déplacement de Lyon à Tara.
Je te remercie de m'inviter.
Écoute, on va passer une heure ensemble où les auditrices et auditeurs vont découvrir ton parcours, le sens de ton engagement artistique, tout comme celui de tes actions culturelles et éducatives que tu mènes à Lyon auprès de la jeunesse. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Et je te propose, avant d'engager notre conversation, de nous donner un peu plus d'éléments sur ta présentation et notamment sur tes débuts de rappeur en Guadeloupe et ton arrivée dans l'Hexagone au début des années 90.
Alors, à la base, je suis né en France. Donc, comme j'avais pu l'occasion de le dire, je suis né à Paris, dans le 93, à Rougemont. Et après, j'ai continué en Guadeloupe. J'ai passé le reste de mon enfance en Guadeloupe et mon adolescence. Et je suis revenu vers la fin de mon adolescence en France. Et puis j'ai débarqué à Lyon, notamment pour faire mes études. Et donc en fait, tout ce temps-là, j'étais déjà dans la culture hip-hop. Hein. J'ai commencé à l'âge de 11-12 ans. Et après, quand j'ai commencé le hip-hop, en fait, c'était deux amis en fait, qui venaient de Vitry, qui étaient retournés aux Antilles. Qui habitaient pas loin de chez moi en fait finalement, et eux ils avaient été formés par les Little MC, Donc ils avaient appris à faire de la danse, du rap et tout. Mmh. Ils m'avaient dit, eh ben, tiens, toi ça ne t'intéresse pas, tu viens, on commence un groupe ensemble. On avait appelé ça les Fatal MCs aussi. Et du coup, ben, à l'époque j'ai commencé par la danse. J'étais danseur derrière le rappeur principal Wilson, qu'on appelait Donald à l'époque. Et donc son frère était danseur avec moi, on était les deux danseurs et un rappeur. Et puis après, avec le temps, ben, comme on faisait des freestyles tout le temps, on aimait bien faire des freestyles, on aimait bien déconner là-dessus. Au bout d'un moment, j'ai dit, ben, moi j'ai des choses à dire, est-ce que je peux commencer à rapper aussi? Donc je me suis lancé dans le rap.
Alors en fait, tu as décidé de passer au devant de la scène, parce que c'est vrai, en général, les danseurs étaient souvent en second plan de la scène, c'est-à-dire derrière les rappeurs. Alors que là, tu as décidé finalement de passer devant.
En fait, à la base, la première sensibilité que j'ai eue, c'était par rapport à la danse. Parce que du coup, bon, j'aimais bien danser et tout. Et puis, ça me parlait, quoi. J'avais le mouvement, tout ça, ça me parlait. Et c'est vrai que sur scène, on faisait décorer derrière le rappeur, derrière Donald. Et bon, on aimait bien. Et puis après, comme on avait quand même des sons assez engagés à l'époque, et c'est vrai qu'à l'époque, je faisais du beatbox à côté. En fait, on beatboxait, on faisait du tag, en fait, du graph, en fait, on faisait un peu tout. Et on a appris la culture les années 88. Et on a appris avec les Fat Boys, enfin, on a appris vraiment la culture hip-hop de cette génération-là, où on était pluridisciplinaire.
C'est ça.
Et donc, du coup, le rap, après, c'est venu parce que du coup, j'ai eu envie de prendre le micro et dire des choses aussi, parler aussi de ma vie, de parler de ce qui me touchait. Et donc, c'est vrai qu'après, on est devenu deux rappeurs et un danseur. Après, on en a d'autres qui sont venus, qui ont complété le groupe. Au final, on a fini à 5. Et on a même un gars qui faisait du raga, qui a commencé aussi avec nous. Donc, Fatal MC Posse, ben, l'histoire, c'est que par la suite, on a fait un single, on a rencontré un producteur qui nous a vus sur une scène. On a fait un single qui s'appelait Caribbean Girl, qui avait tourné dans les radios. On a fait une petite tournée par rapport à ça. On a pu rencontrer pas mal de trappeurs. On a rencontré Fuckly, Tyrone, on a rencontré pas mal de gens en radio en Guadeloupe. On a fait les podiums Sun FM, on a fait pas mal de choses en Guadeloupe. Et on a tourné sur le podium du Tour, on est passé à la télé, donc il y a eu pas mal de choses qui sont passées par la suite. Et moi, entre-temps, j'étais reparti en France, j'étais parti faire mes études. Mm-hmm. Et du coup, j'ai débarqué. Alors, en premier temps, j'ai débarqué à Paris, et parce que j'avais de la famille à Paris. Après, j'ai fini à Lyon, parce que du coup, Paris, c'était compliqué. J'étais entre Orgemont et le Bois-l'Abbé. Dans 94, 93, beaucoup de trajets tout le temps, et je me disais, bon, je me vois pas trop rester là-bas, faire mes études, en sachant que je fais l'aller-retour entre le 93 et le 94, que ça me prend beaucoup de temps, tout le temps, et bon, c'était pas évident. Donc c'est vrai que j'ai plus été attiré par Lyon, parce que j'ai été pris à Lyon, et Lyon, je connaissais déjà un peu, j'avais déjà été traîné un peu à Lyon, donc je m'étais dit, pourquoi pas. Et puis finalement, ben, c'est devenu ma ville d'adoption.
Et tu t'es installé avant là ?
Je me suis installé à Lyon, et ça fait quand même beaucoup de temps, quoi. Ça fait plus d'une trentaine d'années.
Ça fait 30 ans.
Donc, en gros. Ouais, ça fait 31 ans maintenant.
Tu es lyonnais.
Donc ça fait quand même pas mal de temps.
Tu es lyonnais à part entière.
Voilà.
Et tu t'es installé à Vonvelin, donc en quelle année ?
Alors, je me suis installé à Vonvelin. Alors, au début, j'étais en chambre universitaire. Et après, je me suis installé à Vonvelin vers
99-2000.
Donc, ça fait plus de 25 ans.
Et c'est là que tu as créé l'association Fait Nouveau.
Alors, j'ai pas créé Fait Nouveau tout de suite, parce que du coup, quand je me suis installé à Vonvelin, j'étais déjà dans mon groupe et je faisais déjà des concerts, on faisait déjà des concerts, on faisait déjà des transbordeurs, on faisait déjà pas mal de choses. Et dans mon groupe, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'il y en avait qui étaient de Vonvelin, il y en a qui étaient de Vénissieux, il y en avait qui étaient de la Croix-Rousse, il y en avait qui... Enfin, on était un peu de partout.
C'est pour ça que tu parles de fédération, en fait.
Ben, en fait, dans mon groupe, déjà, on fédérait déjà plusieurs villes, plusieurs quartiers. Donc, après, l'histoire de la fédération, c'est devenu après, puisque du coup, à la base, je voulais faire un collectif. À la base, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Vonvelin, je faisais des actions et j'avais fait un clip qui s'appelle le clip de Lyrical Braco. C'est un morceau que j'avais sorti sur mon premier street album. Et en fait, l'ai lu à la culture de Vonvelin. Nasser, qui perd son âme, qui est décédé depuis, mais il avait trouvé ça cool qu'il y ait des gens qui fassent des clips et tout à Vonvelin. Bon, après, ce qui était particulier, c'est que j'étais sur les toits, les toits des bâtiments à Vonvelin, et du coup, il s'est dit, c'est qui ces gens qui sont sur les toits en train de rapper et tout? C'est quoi ces trucs et tout? Ils n'ont pas le droit. Ils se sont rapprochés de nous, et puis du coup, la ville, elle m'a dit, oui, ben, apparemment, vous faites pas mal de choses avec la jeunesse, puisque je faisais déjà des ateliers avec les jeunes. Il m'a dit, ben, écoutez, ça serait bien que vous fassiez une sculpture qui puisse un peu regrouper une espèce de collectif qui puisse un peu réunir tout le monde. Donc après, premier temps, j'ai commencé par parler aux acteurs que je connaissais de Vonvelin et voir un peu des anciens, Coupidicite, Nanou, en fait, tous ceux que je connaissais déjà. Et j'aurais dit, ben, écoutez, moi, j'aurais bien aimé monter une structure, j'aurais bien aimé faire un collectif, mais il y a deux formules, soit les fédérations, soit les collectifs. Après, le côté fédération, je me disais peut-être que ça peut être intéressant d'essayer. Donc par la suite, j'ai vu avec d'autres activistes, notamment à Paris, j'ai réuni pas mal d'activistes à Paris qui n'étaient pas trop d'accord avec ce côté fédéral un peu, qui était trop institutionnel, qui m'avaient dit, ben, nous on n'est pas trop sur le truc de fédération parce que dans le hip-hop, il n'y a personne qui doit être le chef et commander tout le monde. Après, je leur ai dit, moi, à la base, l'idée, c'est vraiment de réunir tout le monde, quoi. C'est pas d'être le chef et de commander tout le monde.
Donc, il y a une relation horizontale.
Ceux qui veulent adhérer, parce que c'est vrai que le format un peu pyramidal, c'est pas trop le hip-hop, quoi. On n'est pas là-dedans. Donc, c'est vrai que moi, je disais, ben, vu que moi, je me sens, avec le réseau que j'ai, de pouvoir réunir un peu tout le monde et essayer d'avoir une direction dans laquelle on peut aller, mais je veux bien monter une structure qui va fédérer un peu, en sachant que je ne suis pas le chef du hip-hop, je ne suis pas le chef de la culture hip-hop. Quoi.
C'est ça, c'est fédérer en fait.
C'est plus un représentant qui peut parler au nom des autres en fait, et en s'accordant aussi avec un peu la parole de tous en fait.
La parole de tous.
Représenter un peu avec la parole de tous. Donc c'est vrai que j'en avais parlé avec des activistes de Paris qui m'avaient dit, ben, pourquoi pas essayer, faut voir. Après, moi, j'avais fait au niveau local. Donc, c'est pour ça que c'était Fédération Vaudaise.
Oui, voilà. Sans vouloir te couper la parole, Rudy, c'est que j'imagine que c'est cette fédération réunit en fait des artistes de différentes disciplines du hip-hop. Donc, j'ai bien compris, hein, c'est à la fois des rappeurs, c'est des danseurs, c'est des graffeurs.
C'est pluridisciplinaire.
C'est des musiciens, des DJ, c'est pluridisciplinaire. Et c'est ça qui t'a permis aussi de participer, tu me dis si je me trompe aussi, notamment à la Biennale des Cultures Urbaines de Vonvelin, mais pas seulement, je crois. Ta collaboration aussi avec la Biennale d'Art Contemporain.
Ça, c'était avant la Biennale.
D'accord.
En fait, c'était après la Biennale.
D'accord.
C'est-à-dire que j'avais, quand j'ai créé Fedevo, je tournais déjà, j'avais déjà mes clips qui tournaient.
D'accord.
Et du coup, j'avais déjà été approché par la Biennale, parce qu'ils m'avaient dit, voilà, nous, on aurait bien aimé insérer la culture hip-hop dans un musée d'art contemporain. Mm-hmm. D'ailleurs, j'avais collaboré avec Myriam Baldus.
Avec Myriam Baldus,
qui
avait
fait un spectacle
de
Rieu-la-Pape et tout.
Voilà.
Et du coup, moi, j'étais déjà engagé sur les ateliers d'écriture dans les quartiers. Donc, je travaillais avec la Duchère, avec Vonvelin, avec Vénitieux à l'époque. Donc, j'avais beaucoup de jeunes. Et bon, aujourd'hui, je pense avoir dépassé le millier de jeunes, puisque je continue à faire des ateliers. Toujours, je suis à Givors, ces derniers mois j'étais à Givors, et du coup il m'avait dit, en fait c'était un défi, le gars de la Biennale m'avait dit, voilà, nous on aurait bien aimé faire venir les jeunes dans le musée d'art contemporain avec la culture hip-hop, comment vous voyez ça? J'ai dit, ben écoutez, qu'est-ce que vous proposez? Ils m'ont dit, eh ben, la salle Sarkis, c'est une des salles du musée, faudrait l'aménager en scène, faire une scène. Et comme je travaille avec Vedouta, ils m'ont dit, ben, l'idée, ça serait une vue sur les quartiers, sur tout ce qui est autour de l'art contemporain, mais plus le côté populaire et plus représentatif des quartiers prioritaires. Et du coup, j'avais dit, ah ben, ça peut être cool. On va aménager la scène et tout, dans la salle du musée et tout. Donc, on a fait toute une scénographie. À l'époque, je travaillais avec Maïssa Barouche, qui était une danseuse de Vonvelin et qui avait une création. Et du coup, on avait travaillé sur En attendant Godot, sa création. On avait fait la mise en scène, on avait fait le travail de mettre en lumière le spectacle. Mm-hmm. Et du coup, je l'avais programmé pour cette biennale-là. J'avais appelé Myriam Baldus et j'avais contacté aussi tous mes petits rappeurs qui étaient éparpillés un peu de partout. On a fait un gros show et tout. Et donc à cette époque-là, j'avais pas encore fait Dévo. J'avais une association qui s'appelait Révolutionnaire.
C'est ça.
Donc c'était R Évolution. Donc c'est l'évolution avec un côté un peu engagé. Donc c'est vrai que j'étais très engagé en fait déjà avec cette association-là. Et donc Révolutionnaire a créé Fédévo.
D'accord.
Parce que le format de fédération, quand on s'était rapproché de la fédération qui existait à l'époque, donc c'était un gars de Toulouse qui l'avait monté en national. Bon, on avait dit que ce format-là pourrait être intéressant puisque ça fédérait un peu les associations. On a dit pourquoi pas essayer. Et vu que la fédération nationale, ben ça avait coulé parce que bon, le gars, bon, il avait fait un peu des trucs pas cool. Il s'était barré au Maroc et il avait un peu arnaqué. Donc du coup, on s'est dit bon, on va pas refaire comme lui. On va pas faire un truc qui monte en national tout de suite. On va faire un truc au niveau local.
Plus local.
Et en sachant que vous en venez quand même une ville qui est un peu comme le Bronx en fait en France, puisque finalement c'est une ville où c'est là où il y a les premières émeutes et puis des répercussions après sur Vénissieux. Donc après voilà, on s'est dit ben pourquoi pas vous en venez, c'est une ville quand même qui est porteuse de ce message et qui est très militante. Donc, pourquoi pas créer la structure à Vonvelin.
D'accord.
Donc, ça s'appelait Fédération Vaudaise Hip-Hop Culture Urbaine. C'est un petit peu imprononçable. Donc, les jeunes, ben, pour ne pas se prendre la tête, ils disaient Fédévo, Fédévo, Fédévo.
Fédévo. Et moi, je prononçais mal, je disais Fédévo.
On a gardé Fédévo.
Mais c'est Fédévo. Hein.
Ouais,
c'est Fédévo.
Ouais.
C'est Fédévo. Et tu as fondé un groupe qui s'appelle Karukera Kila.
Alors, Karukera Kila, ça a été mon premier groupe de Lyon.
Voilà, ça c'est...
Donc c'est avec Grégo et Vida, donc c'est deux rappeurs d'ici, hein. Un qui était originaire des Pentes de la Croix-Rousse, un qui était originaire de Jean Cagne à Vénissieux, et du coup on avait commencé à la MJC de Vénissieux.
À la MJC de Vénissieux.
Oui, on a travaillé à l'époque au Cadran.
Au cadran,
et puis on faisait MJC de Vonvelin, MJC de Vénissieux. On essayait d'aller dans toutes les MJC, là où il y avait le matériel pour pouvoir faire nos sons. Puisque du coup, c'est vrai qu'on a commencé à faire nos propres sons, à faire nos trucs très rapidement. Quoi. Parce qu'à l'époque, c'était compliqué d'avoir des beatmakers.
C'est pas évident. Ouais.
Et donc, du coup, j'avais commencé avec Karukera Kila.
Avec Karukera Kila.
Donc, excuse-moi. En gros, c'était les killers de Karukera. En gros, c'était les killers de Karukera.
Et Karukera, que signifie Karukera? Tu peux nous le dire?
Ben, Karukera, c'est le nom caraïbe de la Guadeloupe.
Avant que Christophe Colomb...
avant que Christophe Colomb vienne et qui les tue tous. Bon, il les a pas tous tués parce que...
Et finalement, il appelle Guadeloupe.
L'histoire des Caraïbes, j'ai mon arrière-grand-mère maternelle qui était une dernière de la lignée de sa famille descendante Caraïbe, qui m'a parlé des Caraïbes, parce que j'ai eu le temps de la connaître, et qui m'a parlé justement de toute cette histoire autour de l'extinction des Caraïbes et tout. Et donc du coup, ça m'a permis de savoir ça, puisque du coup, c'est vrai que maintenant, ils commencent à en parler, maintenant, des origines, on va dire, amérindiennes de certains Antillais, mais c'est vrai que... Il y a très peu de personnes qui parlaient de ça, puisqu'ils ont été exterminés, la plupart des Caraïbes. Il y a très peu de familles qui existent encore. Et après, ce qui reste des Caraïbes, c'est surtout à la Dominique. Donc c'est l'île qui est juste en dessous de la Guadeloupe, entre la Martinique et la Guadeloupe. C'est là où il y a vraiment le foyer des anciens descendants Caraïbes. Après, comme on est tous des mix, hein, on est des mix entre l'Afrique et la Caraïbe, on a tous des métissages. Donc voilà, donc du coup, justement, Karukera, ça me parlait. C'est le nom que tous les
Guadeloupéens
connaissent, en fait, finalement.
D'origine. Et est-ce que, justement, j'ai cru comprendre que tes textes étaient aussi une vision, effectivement, à la fois de Lyon, du monde, pas que de Lyon d'ailleurs, mais aussi une façon aussi de revendiquer aussi tes origines aussi.
Ben à la base, quand j'ai commencé à rapper, je rappais en créole et en anglais, un peu en français, mais pas beaucoup en français.
Et plus en créole.
Puisque j'ai grandi avec MTV, quoi. Donc, nous, c'est toutes les premières émissions d'MTV. Après, faut savoir que quand on est aux Antilles, on est beaucoup influencé par les Américains.
Oui.
Parce qu'on est des Afro-Américains à la base. C'est ce que les gens, ils savent pas, c'est que ceux qui sont aux États-Unis, c'est juste nos cousins, en fait. C'est pas, ils sont pas tellement différents de nous.
Mm-hmm.
C'est juste que nous, on est restés sur les îles, ils ont continué sur le continent. Et donc, du coup, et puis, la culture hip-hop a été beaucoup inspirée de la Caraïbe. À la base, c'est des Jamaïcains qui sont allés à New York, enfin, qui sont partis aux États-Unis, qui ont ramené leur savoir-faire et qui ont pu créer des choses avec les gens qui étaient sur place pour pouvoir vraiment développer la culture hip-hop. Donc c'est quelque chose qui,
oui,
nous, en tant que Caribéens, ça nous représentait totalement. Et puis comme on piratait MTV, tout ça, donc on était au courant. On avait le côté Radio Nova en France et le côté américain avec MTV, tout ça. Donc on était entre les deux,
ouais.
La France et les États-Unis. Moi, je rappais en créole et en français, un peu en anglais, puisque du coup, j'écoutais du rap américain tout le temps. Et comme aux Antilles, c'est les langues principalement parlées, c'est l'anglais et l'espagnol. Pas le français, en fait.
Mmh.
On est très peu à parler le français aux Antilles. On parle beaucoup, beaucoup parlent le créole, mais pas trop le français. Donc, du coup, pour se faire comprendre avec les autres dans les autres îles et tout, ben, du coup, en général, on s'exprime en anglais ou en espagnol, ou en créole. Donc, c'est vrai que... Et après, le côté français, ben, je l'ai développé beaucoup en venant en France.
Oui,
en revenant en France,
puisque le rap français était beaucoup plus aussi...
Oui, après, c'est vrai que le rap... En fait, c'était pas, on va dire, linguistiquement parlant, c'était pas pareil. C'est pas les mêmes. C'était beaucoup revendicatif. C'était beaucoup revendicatif en créole. C'était pas les mêmes flots. C'était pas du tout le même style. Et le côté français, ben, j'aimais bien aussi. Hein, donc, puis j'écoutais tous les rappeurs français. Je suis de la génération de Kerry James. Donc c'est quelqu'un que j'ai suivi. On a le même âge. Hein.
Mm.
Booba, Kerry James, tout ça, c'est les gars, on a le même âge. Et donc c'est des gens que j'ai suivis depuis tout petit, en fait, et que j'ai croisés plus tard avec le temps. Et donc du coup, voilà. Après, on va dire qu'il y a eu tout ça, tout ce mélange-là déjà. Et donc, Karuk et Rakila, c'était le fait de s'exprimer déjà en France et de garder ce côté un peu rebelle, mais aussi de parler un peu du pays, de tout ce qui nous touche aussi par rapport au pays, quoi. Voilà. Et de fil en aiguille, ben, Karuk et Rakila, ben, ça a grandi quand on a croisé les autres membres d'Ethos. Et donc, du coup, on s'est dit, ben, tant qu'à faire, on va faire un collectif.
D'ailleurs, en fait. Ethos, pourquoi Ethos ?
Alors, ethos, à la base, ça a une signification grecque. C'est des gens qui sont dans la même direction, qui ont des points communs et qui ont une vision commune, en fait, qui partagent des choses communes. Et du coup, ce qu'on partage en commun, c'était la culture hip-hop, la musique. On avait vraiment une vision commune, puisque du coup, dans ethos, à part un qui était moitié congolais, la plupart d'entre nous, on était guadeloupéens, il y en avait des moitiés martiniquais guadeloupéens, mais en fait, on était un peu tous un peu des mêmes origines. Donc, c'est vrai que ça nous a réunis. Et le côté, justement, ethos, c'était d'être tous réunis, mais d'aller dans la même direction.
D'accord.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe ethos existe encore, hein, on est encore ensemble. Bon, après, on revendique plus tellement le groupe parce que maintenant, le temps a passé, on a créé des structures, on continue toujours ce qu'on faisait avant, sauf qu'on l'a développé avec les années. Et puis voilà, mais c'est toujours pareil, on a un groupe de rap, rap raga, voilà, on est toujours pareil. On a créé notre sound system, qui a son massive, voilà, qui est de 2001. Et donc voilà.
On va faire une pause musicale avec un son de ton choix et c'est le morceau s'intitule Fais pas style.
Ouais. faux semblants, tu sais. Ouais, vaut mieux être sincère et franc. Arrêtez de faire l'hypocrite. Arrêtez de faire caïd parce que t'as une équipe. Fais pas style, tu connais pas. Ouais, ouais. Fais pas style, tu connais pas et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, fais pas style, tu connais pas et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, fais pas style, fais pas style, Bello. Fais pas style, je connais pas. Fais pas style, Bello. Fais pas style, je connais pas. Fais pas style, tu connais pas. T'as oublié tout ce qu'on t'a appris. T'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Fais pas style, tu connais pas. T'as oublié tout ce qu'on t'a appris. J'ai dan du côté gauche, ça c'est Najet qui me l'a appris. Tu fais le mal appris sans éducation. Elle qui? Ce que t'as pris ta mère a priori, tu l'as pas compris. Tu rejettes tes acquis, pas vu, pas pris. T'es plein de mépris envers les autres, plein de haine envers la patrie. Dans les autres de système, les flatteries. Hypocrite qui te font des gâteries. Te dan quand t'atterris et que tu veux recharger les batteries. C'est pas terrible toutes ces conneries. Pourquoi font pas qu'être ma caquerie? Quand les paroles partiraient, c'est écrit. Les pleurs, les regrets, l'arrache, les cris. À quoi créer-nous ici? On s'enfonce dans un puits. Sans fond, un pied dans la souffrance, l'autre dans le mépris. Ça, ça doit être écrit quelque part. Fais pas style, tu connais pas. Fais pas style, fais pas style, tu connais pas. T'es aigri. Fais pas style, tu connais pas. Et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, fais pas style. Fais pas style, tu connais pas. Et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, fais pas style. Fais pas style, Bello. Fais pas style, je connais ça. Fais pas style, Bello. Fais pas style, je connais ça. Fais pas style, tu connais pas. T'as oublié tout ce qu'on t'a appris. T'as oublié tout ce qu'on t'a appris. T'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Amnésie passagère, tu fais passer pour un incompris. Insoumis devant ton père, ta mère, malgré ce qu'ils t'ont instruit. Avec leur conseil, t'as pris de la bouteille et ta vie, tu l'as construite. Et puis, petit à petit, et des six sans repère, tu te détruis. Quand on flie une vision amère des rapports avec autrui. Tu fuis la galère dans un monde imaginaire enfoui. Atmosphère glauque, l'odeur de la mort pétrie. Te laisse un goût amer sans voix écrite. Du silence et plus bruit. La misère en austère persévère, sa porte s'effuit. Si le calvaire se poursuit, allume, cherche et prie. La famille solidaire des ennuis qui nique la vie t'appuie. Le savoir, l'expérience, la connaissance n'ont pas pris. Faut des acquis à chacun son importance. Fais le tri pour pas finir flétri. En cum, en dépendance à l'illicite produit. Fais pas si tu connais pas. Fais pas style, tu connais pas. Et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, fais pas style. Fais pas style, tu connais pas. Et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, fais pas style. Fais pas style, Bello. Fais pas style, je connais ça. Fais pas style, Bello. Fais pas style, je connais ça. Fais pas style, tu connais pas. Et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. T'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Fais pas style, tu connais pas l'alphabet. T'es pas un alphabet, tu fais le bête. J'entends de cocon pour compter bien, mais tu débites des barrettes. T'es pris plein de dettes, t'es bon pour fabuler. C'est fabuleux pour défiler. Direct, le baratin malhonnête. Fait que tu peux te le permettre, même si on te traite d'enculé. Quand tu veux nous la mettre profond dans le feu, une fois le dos tourné. Après, tu te sens exclu, on est déçu, on s'enroulait. On s'en fout des excuses, l'affront. Ta veste, tu l'as retournée. Seul, tu te m'enfonds dans ta détresse, tout retourné. Tu crises, tu comprends la maladresse, la gravité de tes bêtises. Dans la rue, tu confonds respect et vulgarité. Tu traites et t'as des surprises. En finalité, faute commise et pas avouée. Poignée, mais compromise, plus bise, embrouille à la clé. Reste dans la mouise, Pello. Viens pas jouer dans mon bise. Tu vas te faire refouler, assume-moi un ski.
C'était Fais pas style. Alors, c'est un morceau qui date pas d'aujourd'hui, je crois, hein, qui date de il y a 10 ans à peu près, non?
Ouais, 2009-2010, ouais. C'est, ça fait 15 ans déjà. Ça fait longtemps, ouais.
Alors, et en même temps, c'est un texte qui se trouve plutôt dans la lignée militante un peu d'un KRS-One, dont on parlera tout à l'heure. C'est-à-dire celle de tirer vers le haut la conscience, en tout cas, de l'éveiller. Parce que on est dans aussi cette préoccupation de la transmission, et notamment des valeurs du hip-hop.
Alors, c'est un morceau qu'à la base, j'ai écrit quand je faisais mes ateliers dans les quartiers avec mes multiples jeunes, comme dans le clip, en fait, je mets en avant les jeunes que je formais. Et en fait, c'est un morceau où tout le temps je leur disais, ouais, mais en fait, vous faites style, vous êtes au courant de rien, vous connaissez rien, on vous a rien appris, vous faites toujours les ignorants, alors qu'en fait, vous connaissez des choses, on vous a transmis des trucs, nous les anciens, on vous a appris des choses, vous les appliquez pas. Et en gros, c'était un morceau où je leur parlais, en fait. je leur parlais, ils aimaient bien ce morceau d'ailleurs. Tout le temps, ils disaient, fais pas style. Et voilà, c'est un morceau vraiment, je parlais vraiment aux jeunes. Mmh. Aux jeunes que je formais dans les quartiers. Parce que au-delà du côté pédagogique de faire des ateliers, il y avait la dimension sociale où j'avais beaucoup de jeunes qui, ça m'a toujours tenu à cœur, qui étaient à la limite de la délinquance. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, je suis fier d'eux, puisque la plupart, ils ont bien continué leur vie, ils ont bien évolué. Et je les revois encore au jour d'aujourd'hui. Il y en a qui sont devenus sportifs de haut niveau, il y en a qui ont continué la musique, il y en a qui ont intégré la société avec des boulots plus normaux, quoi. Et du coup, donc, en fait, c'était avec, suite au contact avec les jeunes que je voyais tout le temps, puisque du coup, des ateliers, ça fait déjà plus de 23 ans, 24 ans que je fais des ateliers. Et à la base, ça m'est venu parce que j'ai un ami qui faisait de la sécurité, mais qui était animateur à côté, et qui m'avait dit, j'ai besoin de lancer un concept à la Poudrette. Donc, c'est la maison de quartier des Brosses.
Oui, tu as beaucoup travaillé avec elle.
Et c'est là que j'ai commencé, en fait. Et donc, j'avais des petits de la Poudrette. Ils m'avaient dit, j'ai un problème, j'ai des petits. En fait, les grands du quartier les utilisent pour faire du deal, en fait, pour faire de la livraison tout le temps. Et donc, en fait, ils veulent faire de la musique, mais ils ne parlent que de ça tout le temps. Et donc, il avait fait appel à plusieurs rappeurs de Lyon. Donc, il avait fait appel à un rappeur de passe-passe, un DPM, en fait, de 3-4 groupes de Lyon, et dont Ethos. Et moi, du coup, j'étais d'Ethos. Et pour qu'on puisse tester avec ces gamins-là des ateliers. Et puis, d'accord, au final, ils avaient choisi, ils m'avaient choisi moi, pour continuer.
Très bien.
Et donc, je suis resté là-bas, et ces jeunes-là, je les ai portés quand même pas mal. Parce que je les ai rapprochés de l'UNM de Villeurbanne, qui m'avait demandé, Lucien Cézès était à l'époque là-bas, il m'avait demandé de montrer comment je faisais mes ateliers, puisque je faisais des ateliers qu'avec des groupes. Donc, ils étaient 12, 15, mais c'est comment vous faites pour faire des ateliers avec 12, 15 personnes? Je disais, dans mon groupe, on est déjà 8, ça ne me change pas trop.
Tu sais faire.
Et du coup, j'avais fait ça à l'UNM, ils avaient trouvé ça bien, donc du coup, ça avait permis de institutionnaliser un peu mes ateliers. Après, la ville de Lyon m'avait dit qu'ils voulaient faire un truc pour la jeunesse de Lyon, et donc on avait fait un morceau. Et c'était sorti, il y avait un petit single, il y avait un morceau rock, un morceau rap. Et donc, c'est les jeunes de la Poudrette qui avaient posé sur ce morceau. Donc, j'avais composé un morceau, ils avaient posé dessus. Et c'était sorti en CD, la vidéo que l'on avait fait. Après, il y avait un transborder qui avait été organisé pour ça. Et avec d'autres groupes de Lyon, plus confirmés. Et c'était gratuit. Donc, du coup, ils avaient ramené toute la Poudrette, le transborder et tout. Et c'était génial, puisque du coup, j'étais content, j'étais fier d'eux, puisque du coup.
Bien sûr.
Au jour d'aujourd'hui, il y en a encore qui continuent, il y en a qui sont influenceurs, il y en a qui continuent à faire des petites actions et tout.
D'accord.
Ils sont pas tous tombés en prison. Il y en a toujours qui dérivent,
En tout cas, tout ce savoir-faire, je pense que tu l'as bien réinjecté un peu dans des projets, comme on disait tout à l'heure, socio-éducatifs, là où tu crées des passerelles entre le programme justement scolaire et les disciplines du hip-hop. Tu interviens beaucoup justement dans les écoles primaires, mais pas que seulement, c'est-à-dire les collèges aussi, les lycées, et notamment aussi à travers un projet qui s'intitule, tu me dis si je me trompe, qui s'appelle Urban School. Tu peux en parler dans les grandes lignes ?
Ce qu'il y a de particulier cette année, c'est que Urban School, donc ça a été créé par Révolutionnaire.
D'accord.
En fait, Révolutionnaire, c'est vraiment le cerveau de toute la création, et tous les spectacles, le management, tout ça. Et du coup, Fedevo a pu reprendre des projets de Révolutionnaire. Et du coup, Urban School, en fait, c'était le projet pédagogique pour les écoles, quoi. Donc primaire, collège, lycée. Après, j'ai fait une extension aux universités, quand j'ai commencé à travailler avec les universités, et aussi avec les écoles de formation. Donc ça s'est développé quand même sur pas mal d'établissements, pas mal pendant des années aussi. Et donc, au jour d'aujourd'hui, Urban School, c'était pluridisciplinaire. Il y avait la partie danse, il y avait la partie musique et il y avait la partie graffiti.
Ouais.
Donc, du coup, c'était toujours... En fait, tout ce que j'ai fait toujours, a toujours été pluridisciplinaire. Donc, c'est pour ça qu'avec la Biennale aussi, quand j'ai été approché par la Biennale, ils ont aimé le fait pluridisciplinaire, le côté pluridisciplinaire que j'avais. Donc, c'est pour ça que j'ai surtout fait des trucs pluridisciplinaires en général. Et du coup... Ben, Urban School, ben, ça m'a permis justement de pouvoir passer du côté MJC, centres sociaux, le côté social, maison de quartier, à rentrer vraiment dans l'enseignement, et notamment l'enseignement artistique. Donc après, au jour d'aujourd'hui, je suis encore dans tout ce qui est artistique, éducation artistique et culturelle. Donc c'est vraiment le domaine sur lequel je travaille le plus, voilà. En fait, finalement. Et cette année, c'est l'année où j'ai fait une combinaison entre le festival La Syrie Hip Hop de Guinée, donc c'est un partenaire de Guinée, et Urban School. Et ça s'appelle La Syrie Hip Hop School. Donc cette année, c'est l'année où normalement je dois aller transmettre mon savoir là-bas. Et donc je suis bien entouré. Hein. L'année dernière, Lilou, il est déjà allé.
Alors qui est Lilou ?
Alors, Lilou, c'est B-Boy.
Alors, rapidement.
Ben, Lilou, c'est le B-Boy le plus connu, voilà. De Lyon, quoi. C'est le champion du monde, multiple champion du monde. C'est un jeune qu'on a connu quand il a commencé à danser. Hein. Ben, il s'était inspiré pas mal des anciens de vous. J'ai un gars de mon groupe, Johnny, qui faisait de la danse, qui est pluridisciplinaire aussi. Et lui qui a grandi à Vonvelin. Et donc son groupe, ils avaient des danseurs. Donc Rudy, Teddy. Et Lilou, il les regardait danser tout le temps dans leur spectacle et tout. Et il faisait du karaté à l'époque. Il s'est dit, ah, moi aussi, je vais faire comme eux, je vais danser et tout. Donc du coup, après, il a commencé le break. Et puis on l'a vu grandir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Lilou et Brahim, c'est deux danseurs des Pokémon. Et j'étais leur surveillant.
Tu étais leur surveillant.
J'étais leur surveillant.
Tu étais surveillant.
Brahim au collège Mermoz, quand il était d'accord. Petit, et Lilou au lycée Magenta. Et en gros, donc, je les ai vus grandir vraiment. Et du coup, quand on avait fait notre premier concert au Ninkasi Kao, le groupe Ethos, alors c'était en 2000. Je ne sais même plus en quelle année. 2017 Non, c'est... Je ne sais même plus en quelle année. On a fait notre premier Ninkasi. Ouais, dans les années 2000. En fait, on s'était dit, ah, les deux tueurs en fait, des Pokémon, c'est Brahim et Lilou. Et on avait dit, on a invité Brahim et Lilou. Ils avaient fait un freestyle sur un de nos sons, Ghetto Boy.
D'accord.
Et ils avaient dansé avec nous sur Ghetto Boy aussi sur scène. Et après, ils avaient fait le freestyle sur l'instru. Et on s'était dit, ah ouais, mais eux, là, eux, ils vont tout tuer. Un jour, je les ai vus au Super Bowl. J'ai dit, mais regardez, je vous avais dit que c'était des tueurs. C'est les deux seuls Lyonnais qui sont allés au Super Bowl aux États-Unis. Donc voilà, et donc du coup... Ouais,
ils sont une référence en tout cas aujourd'hui en France.
Et donc ce qui s'est passé, la série hip-hop, j'ai commencé à travailler l'année dernière, la série hip-hop school, et je lui avais dit à Lilou, ouais, toi qui vas souvent en Afrique, ça serait bien que tu passes vers la Guinée, il y a les Pokémon à Conakry, il y a des Pokémon Conakry. Il m'a dit, ouais, écoute, ben, je vais le voir. Et puis j'en avais parlé aussi à Banga. Donc Banga, c'est un ancien Supreme NTM 93, en fait, que je connais depuis tout petit, en fait, que j'ai rencontré au PUS quand j'étais gamin. Et du coup, ben, Banga aussi, je lui en avais parlé. Et comme c'est des gens qui sont dans la transmission, ils m'ont dit, ah ouais, ben, on va aller faire jeter un petit coup d'œil. Et Lilou, il a fait la tournée... Ouest Africa, l'année dernière.
Oui, on l'a beaucoup de gens l'ont suivi, en tout cas, à travers cette tournée-là. Enfin, même, je crois qu'il est allé aussi au Congo, non ?
Oui, il avait fait Ouest RDC, Africa. Et donc, du coup, il avait rajouté une date. Afrique centrale. Il avait fait un workshop avec les jeunes de là-bas, les Pokémon Conakry. Et du coup, Ebanga, il y est allé de lui-même pour voir un peu sur le terrain et tout.
D'accord.
Et donc, là, cette année, on s'est réunis à Paris. On s'est dit, ouais, cette année, on y va tous ensemble et tout. On va faire une petite caravane. De transmetteur.
Toujours dans la transmission. Et d'ailleurs, pour revenir un peu à ça, cette notion de transmission, tout à l'heure, j'ai cité comme référence KRS-One, un rappeur dont tu es très attaché, notamment sur ce qu'on appelle donc, le temple of hip-hop.
Temple of hip-hop.
Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu là, dans les grandes lignes ? C'est important parce que, quand même, les États-Unis restent quand même la culture, enfin, restent quand même la source, la base, en tout cas, de ces cultures.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, ce qui m'a donné envie de faire du rap, c'est Redman, avec Time for Some Action, son premier son Time for Some Action,
ouais, Redman,
qui m'a traumatisé. Et du coup, par la suite, j'ai connu Boogie Down Production. Et du coup, j'ai bien aimé les textes de KRS-One, le fond.
Oui, ce qu'on appelle le teacher d'ailleurs.
Oui, teacher, mais c'était le teacher en fait. C'est le plus gros teacher qu'il y a dans la culture hip-hop. Et j'aimais bien sa manière, de sa vision des choses. Mm-hmm. Et après, en 96, quand il a créé le Temple of Hip-Hop, ben, j'étais déjà là-dedans en fait.
Et pourquoi il l'a créé ?
Ben, il l'a créé justement pour donner une image en fait de la culture hip-hop pluridisciplinaire et qu'on se cantonne pas juste au break, au graffiti, au DJing, enfin,
qu'on revienne à la culture,
voilà, que vraiment ensemble. Montrer que la culture elle est beaucoup plus large que ça. Et du coup, il y a aussi des principes dans le Temple of Hip Hop. En fait, c'est une espèce de bible un peu. Et dans les principes du Temple of Hip Hop, il y a des choses qui m'ont parlé, pas mal de choses qui m'ont parlé. Et notamment, ben, quand j'ai créé Fedevo, je me suis basé sur le Temple of Hip Hop.
Voilà, c'est intéressant là, ce que tu es en train de dire.
Je me suis basé parce que, par exemple, il y a un truc qui disait, qui était très important, il disait qu'il ne peut pas y avoir une structure de hip-hop s'il n'y a pas quelqu'un qui représente la culture et quelqu'un qui représente la rue, en fait. Et c'est ce que je trouvais qui n'allait pas dans beaucoup de structures, en fait, hip-hop. Je disais, ouais, mais en fait, je trouvais qu'ici, en France, c'était beaucoup très institutionnel, la culture hip-hop, et qu'il n'y avait pas de rapport entre la rue et la culture hip-hop. Alors qu'en vrai, le hip-hop, ça vient de la rue. Donc, si...
Important de garder un petit peu cette essence-là de la rue, en fait, qui fait tout son état d'esprit,
si
en tout cas, qui le caractérise.
La rue, en fait, finalement, il n'y a plus de base, en fait.
Mais il n'y a plus de base.
Il n'y a plus de base, en fait.
Il n'y a plus de base. Et ce qu'il n'y a pas eu, alors tu me dis, si je me trompe aussi, la déclaration de paix du hip-hop, parce qu'elle ne vient pas de là, cette charte qui permet d'orienter dans le bon sens le hip-hop, c'est-à-dire à l'instar des dérives par rapport à sa source, parce qu'on sait très bien que sa médiation, son instrumentalisation politique, commerciale, devenue aujourd'hui véritable culture de masse, sa relation à l'argent impacte son évolution sur la forme comme sur le fond. Et que ça, parfois aussi, ça engendre aussi des litiges et conflits d'intérêts au sein même de cette communauté dite hip-hop.
Après, c'est vrai que moi, ce que j'avais aimé dans la culture, dans le Temple of Hip-Hop, c'est qu'en fait, alors moi j'ai connu la Zulu Nation, hein, comme tous les activistes de l'époque. Moi, la Zulu Nation, Afrika Bambaataa, j'accrochais un peu moins. Et je trouvais que c'était un petit peu plus concret, l'approche de KRS-One. Parce qu'il expliquait, alors déjà dans les principes, si vous avez l'occasion de les lire, les principes du Temple of Hip-Hop, ça discrimine personne déjà. Ça discrimine personne, ça encourage justement tout le monde à être dans la culture hip-hop et de partager. Donc il n'y a pas d'histoire de discrimination raciale ou ethnique ou des choses comme ça dans la culture hip-hop. Et puis ce qui était bien, c'est qu'il y avait une extension sur la partie le street fashion, d'autres disciplines dont on ne parlait pas trop, dont les gens se sont inspirés, mais qui viennent de la culture hip-hop.
Mais qui viennent de la culture hip-hop.
Et par exemple, le street entrepreneuriat, finalement, ça nous concerne tous, en fait, puisque c'est un truc auquel on arrive au bout d'un moment, au bout d'une quinzaine d'années ou vingtaine d'années, on devient tous des entrepreneurs de la rue, en fait, finalement. Et donc, du coup, je trouvais que c'était bien construit, le Temple of Hip-Hop. Alors, d'accord. Aujourd'hui, il y a encore l'émission sur YouTube, puisqu'il fait quand même de manière hebdomadaire, il fait une émission, il continue KRS-One, mais c'est vrai que c'est pas très suivi, c'est pas très communiqué, et il y a vraiment des gens comme moi, des passionnés qui restent accrochés à ça, en fait.
Il faut connaître.
Oui, il faut connaître, oui.
Rudy, juste, comme chacun le sait, ou peut-être pas suffisamment, le 10 mai en France est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Chaque année. Et à cette date, la ville de Vaux-en-Velin organise une journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition. Et cette année, une rue de Vaux-en-Velin a été inaugurée portant le nom d'une grande figure noire de la résistance à l'esclavage, j'ai nommé Toussaint Louverture. Un ancien esclave qui, après avoir conquis son affranchissement, a défié Napoléon et son armée en menant la révolte des esclaves de Saint-Domingue. Cette révolution, qui, comme tu le sais, libérera les esclaves et qui mènera à la première république noire, dont Haïti, devenue le symbole même de la négritude. Pour célébrer ces libérateurs, ces résistants qui s'inscrivent dans l'histoire du mouvement du marronnage, ayant forcé les abolitions, certains artistes afro-descendants participent à cette journée commémorative. J'ai d'ailleurs moi-même eu l'occasion d'y participer il y a quelques années auparavant. Toujours cette année, au Centre culturel Charlie Chaplin de Vanvelin, la poétesse lyonnaise dont on parlait tout à l'heure et afrodescendante Myriam Baldus a donc été invitée à cette occasion. Accompagnée de musiciens, Myriam a parlé à travers son histoire des séquelles qu'ont pu laisser l'esclavage et la colonisation sur les afrodescendants. Une histoire qui résonne des deux côtés de l'Atlantique sur fond de tambour K et de hip-hop caribéen. Si ma mémoire est bonne, j'ai le souvenir lointain, mais alors vraiment lointain, Audi, de t'avoir vu intervenir sur le plateau du Centre culturel Charlie Chaplin, mais à d'autres occasions, je pense. À d'autres occasions que celle-ci. Ma question, par contre, est la suivante. As-tu été sollicité cette année, ou d'autres années, dans le cadre de cette commémoration, toi, l'artiste hip-hop ultramarin, est basé à Vanvelin?
Alors, j'ai été invité à venir voir justement ce qui se passait cette année, parce que ben, du coup, j'ai appris que c'était Myriam qui avait été programmée. Mais après, en fait, j'ai été invité auparavant pour d'autres choses. J'ai fait des premières parties à Charlie Chaplin, des choses des années d'avant. Et puis, c'est vrai qu'avec mon groupe, on a organisé pas mal de choses pour la commémoration. On organisait des sound systems, on organisait des événements, en fait, souvent pour la commémoration, où on faisait soit des sound systems, soit des concerts. Donc, après, pour cette année, non. Parce que du coup, en plus, je travaillais ce jour-là. Mm-hmm. Mais en gros, j'ai suivi un peu. J'ai vu un peu le spectacle de Myriam. J'ai suivi, en fait, ce qui se passait, quoi. Après, le projet de cette année autour de l'esclavage, ceux qui portent le projet, ben, je les connais bien. Je les connais bien. Ils m'en ont parlé. Ils m'ont expliqué un peu ce qu'ils ont fait et où est-ce qu'ils voulaient en venir. Mais après voilà.
Joël Toussaint, non? Joël Toussaint, notamment.
Oui, il y a Joël Toussaint. Il y a ben, à la base, c'est Loulou qui a lancé ce projet. Mmh. Après, je sais qu'il y a Saïd dessus, il y a Roger. Enfin, ils sont tout un petit collectif, en fait, à Vaud, d'anciens, qui portent ce projet-là. Donc après, moi, ils m'en ont parlé plusieurs fois, mais quand il faudra que je mette ma petite pierre à l'édifice, je le ferai, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire qu'on s'était rencontrés sur d'autres occasions.
Là,
où on avait parlé de ça, en fait.
Au Centre culturel Charlie Chaplin.
Où j'avais intervenu, oui, des fois, même en conférence.
En parlant même de l'influence de la Caraïbe vis-à-vis de la création de la culture hip-hop. Mmh. Hein, je me souviens, alors ça remonte. Mais là, cette année, je t'ai vu, je sais que tu étais un peu sur d'autres événements, et notamment sur le carnaval des Dragons à Saint-Georges, dans le quartier du Vieux-Lyon, là où tu tenais un stand, il me semble, intitulé Graphic Art. Mais ce n'est pas la première fois, hein,
alors,
Graphic Art, ce projet-là que tu...
Alors, Graphic Art, c'est une autre association que j'ai fondée. À la base, c'est un projet qui est né de la Biennale d'art contemporain 2011. C'est-à-dire que en 2011, en fait, Fedevo avait œuvré justement pour démocratiser un peu tout ce qui était des arts urbains, et notamment la culture graffiti, que je connais quand même depuis longtemps. Et du coup, on avait organisé un événement pluridisciplinaire avec la Biennale d'art contemporain.
Ouais.
Et lors de cet événement-là, en fait, on avait invité des activistes un peu de partout, de Lyon, de Paris, de Nantes et tout, pour plusieurs disciplines. Et ce qu'on avait constaté, c'est que justement, au niveau du graffiti, il n'y avait pas beaucoup d'anciens, en fait, ceux que je connaissais, de Lyon qui se sentaient représentés dans l'art contemporain. Donc du coup, on s'était dit, ah ouais, mais ça craint un peu que, en fait, la danse, on avait les Pokémon qui avaient été invités, on avait beaucoup de gens, des activistes qui étaient invités, et on avait Béatem, il était venu avec tous ces jeunes, avec son association Hétéroclite.
Juste parce que tu évoques des noms. Atem est un ancien membre, du groupe Les B-Boys Breakers de Rieux-la-Pape.
Donc c'est quelqu'un qui travaille souvent, puisque du coup on est un peu dans la même conception, travailler avec les jeunes des quartiers et tout, d'être dans le fond vraiment. Mm-hmm. Et donc du coup je l'avais invité avec ses danseurs. J'avais eu le cousin de Shanky Chewbacca.
D'accord.
Qui est de Nantes.
Chewbacca, ouais, de...
Et qui est le cousin de comment il s'appelle encore? Son nom il m'échappe. La rappeuse Martinique.
C'est pas. C'est pas, en tout cas, Graphica, le stand que alors, tu as tenu Graphica, le but était quand même de, étant de l'initiation au graffiti, mais il y a aussi le concept de, tu vas pouvoir me le confirmer, de costume de
customisation costume, d'objets.
Costume, alors oui, ben alors j'ai le nom, c'est
customisation d'objets.
Ouais, customisation d'objets, mais tu. Comme,
alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Graphic Art à la base, c'est un projet pour démocratiser les arts graphiques urbains en région lyonnaise.
D'accord.
Donc c'est un projet que j'ai créé en 2011 suite à la première vente aux enchères d'Agut qui concernait le graffiti à Lyon et auquel on avait participé avec Fedevo et la Biennale d'art contemporain où on avait mis en lumière les différentes disciplines de la culture hip-hop.
D'accord.
Donc on a fait un gros événement, j'étais le directeur artistique de ces événements-là. Et donc du coup, suite à ça, j'avais créé ce projet Graphic Art qui était composé d'une partie tremplin concours, une partie médiation culturelle et une partie festival. Donc voilà, donc c'est un projet qui a été lancé en 2012 et ben, qui existe toujours. Et on en a fait une association à partir de 2019, parce que du coup ça commençait à devenir trop gros dans Fedevo. Et du coup on a externalisé, on a fait une association, une petite association avec. Et donc du coup je suis le fondateur aussi de l'association Graphic Art. Et donc cette association-là continue à faire beaucoup de médiation culturelle dans la proximité. Donc vraiment tout ce qui est des initiations, la sensibilisation à l'art urbain, donc tout ce qui est les ateliers graffiti de partout avec le même réseau en médiation et tout ce qui est événementiel aussi. Donc en général, souvent dans l'événementiel, on fait du pluridisciplinaire. Donc autour du graffiti et de tout ce qui est art urbain qui souvent est figé, on a toute cette dimension-là où il y a la musique, la danse qui rajoute un peu de mouvement dans tout ce qui est figé. Et donc, parce qu'à la base, le graffiti vient de la culture hip-hop. Après, la custom, pour finir, c'est ce qu'on avait proposé à la Biennale en 2011. Donc, Banga et Sonner, qui étaient Zulu King à l'époque, et ils étaient venus customiser le camion de la Biennale, qui nous a fait une bonne promo. Parce que le camion de la Biennale d'art contemporain il tourne toute l'année de partout. Et donc du coup, c'était la première customisation qu'on avait faite. Mais comme c'était un petit peu trop tôt pour lancer tout ce qui était customisation, ben, du coup, j'ai dit, on verra ça plus tard. Et donc ça fait partie du projet Custom Art qui est porté par l'association Graphic Art.
D'accord. Écoute, je te propose enfin de faire une dernière petite pause, mais alors courte pause avec l'extrait d'un son que tu as produit et qui s'intitule... Faut se lâcher.
Faut te lâcher, oui.
Faut te lâcher, pardon.
Alors,
on va l'écouter et on revient.
Écoute après, ok.
J'arrive sur la piste, t'inquiète pas pour moi, je vais me lâcher ce soir.
Quand j'arrive dans la salle, quand j'arrive dans la salle, je sens le bassman. Col roulé, veste en cuir classe, man. Fini les plans foireux à la carte, man. Je me sens roulé, ça m'agace, man. Trop de filles complexes sur leurs cuisses, leurs fesses ou leurs boulets. Plus gros que leurs mollets. T'es speed, je te vexe, t'es timide. Brun fer vex, t'as mal au beat, tu fais la gueule, c'est trop laid.
Sexy,
y'a quoi? Ouais, ouais. J'm'en bats les couilles. Et toi, tu crois que t'es belle, tu crois que j'ai envie. Pourquoi tu parles?
Wesh, t'es un bon ou quoi? T'as trop de gars, tu te prends pas. Tu cailles ta fête ou pas attendre. Quand c'est la fête, faut te détendre. J'ai pas te clasher, mais moi je veux pas démarcher. Un peu macho, je peux pas te cacher. Si je vois tu l'as sans t'attacher.
T'as pas payé pour ta soirée, te fâcher. Allusion sa fan, mais toi là-bas, fais pas chier. T'as besoin d'un chien qui va te lécher, te larcer. Non, je suis pas un lâcheret. Whiné, highway, les highway. Vélo illégaux dans le monde, envie de se lamer. Sur la tuerie qui m'achoppe, fais bouger les vaches et les meufs qui chantent les bottes, mais qui va naf, qu'elles sont cachées.
Sexy, sexy, c'est ce que veulent toutes ces ladies.
Pourquoi
on n'a pas compris?
Y'a quoi? Lâche-toi un peu, bordel.
Wesh, t'es un mou ou quoi? T'as trop de billard, tu te prends pas. Tu cailles ta fête ou pas attendre. Quand c'est la fête, faut te détendre.
Sois pas timide, mémorise le refrain et laisse-moi faire âme fraîche. Pas de manière, faut te lâcher. Si t'es de sortie avec tes copines, t'es en équipe ou en mini Austin. Tu veux du chiffre, t'es une sexy lady. Tiens les mecs, pas loin, je te tiens par le piercing. Sur la puce de dents, tu sais que t'es trop bonne. Bébé, tu me mets en France, on n'est pas grave, je te pardonne. Ouais, moi j'aime bien que la main, mais c'est le maire. Moi tu es celle.
Faut te lâcher, Rudy. Alors, j'ai vu le clip là sur YouTube. Et c'est, l'esthétique du clip est très proche des stéréotypes qu'on reproche souvent d'ailleurs au rap, hein, ou alors au rappeur à une époque, à savoir cette représentation des femmes qui se trémoussent en bikini autour d'hommes habillés, des pieds à la tête, aux allures un peu de Mac. Alors, un acte marketing ou une façon de critiquer aussi cette caricature du rap qui dévalorise les femmes, telle que d'ailleurs le dénonçait le fameux Louis Farrakhan, entre autres. Alors Louis Farrakhan, pour ceux qui ne savent pas, qui ne le connaissent pas, est le dirigeant de l'organisation politique et religieuse afro-américaine Nation of Islam.
Oui, que je sais très bien c'est qui.
Bien sûr.
Et à la base, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à préparer mon premier album s'appelait Reporter sur le terre-terre. Et donc, dans mon premier album, il y avait des sons qui étaient de la journée et des sons de la nuit.
Ouais.
Parce que, alors, moi, dans mon passif, j'ai travaillé autant la nuit que la journée. Donc, et je travaille toujours autant la nuit que la journée. Donc, quand j'ai travaillé la nuit, j'ai travaillé beaucoup dans les boîtes de nuit, j'ai travaillé dans les clubs un peu privés, un peu les clubs un peu chauds. Et du coup, ben, dans mes sons, je parlais de ce que je vivais la journée et ce que je vivais la nuit.
Ouais.
Par exemple, fais pas style, c'est tout ce que je faisais au niveau de la transmission la journée avec les jeunes des quartiers. Et Faut te lâcher, c'est un peu le son avec les copines de la nuit avec qui je travaillais. Donc en gros, tout ça, c'est des choses qui font partie de ma vie, en fait. Et c'est vrai qu'on m'avait fait la réflexion en 2010. On m'avait dit, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Faut te lâcher, c'est le troisième son après une trilogie.
D'accord.
Donc, le premier son, c'était T'es une vache. Alors, T'es une vache, c'était un son où je parlais à mes copines les vaches. Donc, dans le clip, il y avait une femme qui était déguisée en vache, mais qui était une stripteaseuse.
D'accord.
Et du coup, les gens m'avaient dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ça fait comme Snoop Doggy Dogg et tout. Je disais, ouais, mais c'est pas Snoop Doggy Dogg. C'est que dans ma vie, je traîne avec des femmes comme ça tout le temps. Je travaille avec elles tout le temps. Donc, en gros, c'est un petit peu un hommage à ces femmes-là qui sont fières de ce qu'elles sont, en fait, finalement. Et puis, c'est des femmes que j'ai connues en travaillant dans la nuit avec elles. Donc, c'est pas comme si je m'étais dit, ah ben tiens, je regarde les Américains, je vais faire comme eux. Non, après, donc t'es une vache, vu que je travaille avec des rappeuses, avec des chanteuses et des rappeuses, ben il y a une des rappeuses aphrodites, ben qui m'a clashé, parce que je faisais des sons.
Oui, parce qu'elle n'avait pas compris peut-être le sens de ton attention. Et parce que si tu me le dis comme ça, à brut, comme ceci, t'es une vache, je ne comprends pas ce que tu veux dire derrière, même si tu penses respecter finalement ces femmes.
En fait, en étant avec des femmes qui étaient fières d'être des vaches.
Fières d'être des vaches.
Voilà, et qui étaient fières. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux.
Ah.
Des femmes qui sont fières de montrer qu'elles sont en dilettana, les machins. D'accord. C'est la même chose. Ça peut être tintana. Maintenant, c'est dans la mode des jeunes. Maintenant, ça peut être tintana. Parce qu'il y avait ce côté des femmes où, en général, on a tendance à les dévaloriser. parce qu'elles utilisent souvent leur corps ou leur sexualité pour se mettre en avant. Mais c'est des femmes que j'ai appris à connaître en travaillant avec elles dans la nuit, en fait. Je me suis rendu compte souvent que c'est des femmes qui avaient subi des traumas, des abus sexuels, des choses comme ça, qui faisaient qu'en général, elles n'étaient pas... C'était pas comme les autres femmes, en fait. Elles avaient un passif en général qui faisait qu'elles étaient un peu pas déréglées, mais elles étaient pas dans la conformité. Elles étaient un peu. Et du coup, quand j'avais fêté une vache, je parlais de ça, mais en fait, je parlais surtout aux filles que je connaissais, qui étaient comme ça et qui le revendiquaient. Et donc, quand j'avais fait le clip, j'avais une scriptiseuse qui m'a proposé de jouer dans le clip. Donc il y avait un côté humoristique dans le clip,
ouais.
Et où elle se déguisait en vache en même temps, elle jouait pas mal là-dessus, et un petit côté où c'était suggestif, où on la voyait, elle était en petite tenue et tout. Et après, ben, du coup, j'avais Aphrodite et d'autres filles qui m'avaient dit « Ah non, c'est pas normal, tu parles des femmes comme ça et tout, non. » Du coup, on s'était clashé.
Oui, parce que si je comprends bien...
Et donc le clash, il est aussi voilà, sur Internet.
Là, c'est vrai qu'il faut comprendre, parce que si je comprends bien, en fait, à travers ce clip-là, où je comprends hein, ce que tu dis, c'est-à-dire... bon, respecter aussi le mode de vie de ces femmes-là, en même temps qui sont quand même très, qui sont à la fois marginalisées, mais qui sont en même temps stigmatisées aussi quand même, parce qu'elles portent aussi des traumas, ou quand même, comme
ah oui, si mais elles ont, c'est surtout des traumatismes.
Et ce que je comprends bien, c'est-à-dire, c'est que tu as un retour, les gens, ou notamment de ces femmes, qui n'ont pas compris finalement ce que tu pouvais dire à travers ces images-là. Est-ce que c'est une façon aussi de dénoncer l'instrumentalisation aussi de ces femmes-là?
Mais c'est, y avait
un peu
ça.
Comme d'ailleurs, faut se lâcher. Moi, j'ai l'impression que tu étais, on voit ces hommes-là qui sont effectivement habillés de la tête aux pieds et qui sont où ces femmes se trémoussent autour d'eux en bikini. Et pour moi, je me dis tiens, est-ce que c'est aussi une façon de dénoncer aussi cette instrumentalisation des femmes par ces hommes-là, en fait.
Mais suite au clash avec Aphrodite, coup, c'est un son qui avait beaucoup plu aux gens. D'accord. Parce que du coup, on se cachait, c'était vraiment brut. Hein. Moi, je disais ce que je pensais, elle disait ce qu'elle pensait. On se clashait vraiment. Mmh. Et ça avait beaucoup plu au public, puisque du coup, les femmes se reconnaissaient à travers elles, les hommes se reconnaissaient à travers moi. Donc du coup, ça faisait vraiment parler. Et donc, suite à ça, faut te lâcher, ça a été le son. Pour dire, faut te lâcher, hein, en fait, faut se lâcher, faut se faire plaisir dans la vie. Et puis, finalement, les gens, ce qu'ils en pensent, en fait, on s'en fout un peu. Hein,
parce oui, que, mais du coup... sans vouloir te couper la parole, mais tu vois, c'est là où, en fait, ou peut-être que moi, j'ai un peu du mal à te suivre, c'est là où on peut comprendre pourquoi le leader politique et religieux, Louis Farrakhan, les contestait auprès, justement, des rappeurs noirs américains, parce qu'il s'agit aussi de mettre en avant, justement, comme il disait, leur sœur noirs, de les mettre, en tout cas de les caricaturer comme étant de vulgaires prostituées et eux se comportant comme de vulgaires, en fait, macros, en fait. Tu vois, et le message n'est pas compris. Alors oui, ils se lâchent aussi, ils se lâchent dans les piscines, ils se lâchent en balançant aussi de l'argent, comme ceci. Elles sont là, des vaches, effectivement. Mais c'est quoi le message, tu vois? Est-ce que là, c'est là où j'ai un peu moi aussi un peu du mal à suivre.
Ben après, moi, le truc, c'est que je me suis surtout basé sur ma vie, en fait.
D'accord, oui.
Parce que, en fait, moi, dans ces milieux-là, j'ai beaucoup protégé les filles, en fait.
Mmh, oui, ben ça, j'en
j'étais
pas une seconde.
Surtout dans la protection des filles. Ouais. J'étais surtout à essayer de les défendre quand il y avait des problèmes. Et donc, du coup, j'avais pas cette image-là de m'en servir, justement, pour faire de l'argent et de les exploiter. Au contraire, j'étais plus là pour les protéger. Donc, c'est pour ça que les filles, elles ont suivi aussi. Les filles qui sont dans le clip, c'est des filles qui travaillent avec moi.
Ouais.
Et elles étaient contentes de venir jouer dans le clip. Elles m'ont pas dit oui, mais j'ai pas envie qu'on me mette en avant bizarrement et tout. Et puis je leur ai dit, vous serez masqués dans le clip, comme ça on préserve votre identité, quoi. Je vais pas vous afficher, quoi. Le but, c'était pas d'afficher les gens. Mais après, ça fait partie aussi ma culture caribéenne. Puisque toutes les musiques antillaises, elles ont quand même la femme qui est vachement présente et qui est vachement mise en avant, en fait. Et après, ça crée toujours des polémiques.
Entre la dimension sensuelle, sexuelle, mais qui n'est pas, comment dire, uniquement sexualisé en tout cas vis-à-vis de la femme, c'est différent. Enfin, je veux dire, entre, c'est-à-dire mettre en avant effectivement, peut, enfin, je pense, je dis ça comme ça, peut-être cette en avant cette dimension-là, c'est-à-dire ce côté donc sensuel. Pour moi, il y a une différence entre la sensualité, c'est-à-dire et cette et puis comment dire cette sexualité un peu ou en tout cas le côté sexualisé de la femme, c'est-à-dire utiliser que ces dimensions là, voilà, moi c'est un peu différent.
Après moi de manière générale, en général j'ai toujours travaillé avec beaucoup de femmes dans toutes les structures que j'ai eues, j'ai managé des danseuses, des rappeuses, donc en vrai en général je leur disais que c'est pas l'image que j'attendais d'elles.
Donc,
en général, dans le travail que je faisais avec les femmes, c'est plus de leur dire de préserver justement leur dignité et ne pas tomber justement dans ces travers-là, surtout les artistes en fait.
Voilà.
Et en gros, c'est le message que j'ai surtout fait passer aux femmes. Donc ça, c'est plus, on va dire, dans mon artistique, parce que mon artistique, il me représente moi. Et ayant vécu dans ces milieux-là et ayant été très présent aussi dans ces milieux-là, je vois pas pourquoi je n'aurais pas parlé en fait finalement.
Oui, bien sûr.
Parce que du coup,
tabou.
Faut te lâcher. Dans le clip, en fait, c'est moi, mes versions, moi dans la nuit en fait. C'est quelque chose que j'ai vécu pendant des années.
Ouais.
Et les gens de la nuit, ils me connaissent là-dedans aussi. Donc en gros, c'est pas comme si. Et puis c'était beaucoup lié à la rue. Parce que c'est quand même c'est des milieux où c'est des gens de la rue qui gèrent ces business-là. Donc en gros, c'est pas... Enfin, moi, j'avais pas l'impression de ne plus être moi, en fait, quand je faisais ça, en fait. Mais après, c'est vrai que dans le travail que je fais au niveau de la transmission, que ça soit les petites filles qui venaient participer aux ateliers ou des choses comme ça, ou même les danseuses, hein, je disais de préserver leur dignité. En général, j'étais super strict là-dessus, quoi. Parce que je leur disais, nous on est dans l'artistique, on n'est pas dans l'érotisme, on n'est pas dans le sexe en fait. Donc il faut choisir en fait, c'est soit vous êtes dans l'artistique, soit vous êtes dans le milieu du sexe. Mais si c'est le milieu du sexe, c'est plus moi. Il faut vous orienter vers les gens où c'est leur métier à eux. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était une manière d'éveiller les consciences. C'était une manière aussi de transmettre aussi des choses dont on ne parle pas. Puisque finalement, les femmes, elles en arrivent des fois à être dans ce milieu-là, dans ces milieux-là, parce qu'elles ont eu un problème, elles ont eu un abus, elles ont eu des abus, elles ont eu des incompréhensions, des fois elles ont été éjectées de leur famille, c'était une manière pour elles de s'en sortir. Donc il y avait toute cette partie-là aussi que je prenais en compte. Après, dans mes sons, j'ai jamais dit qu'il faut les tuer, il faut les détruire, il faut les machins, j'ai jamais fait ça. Parce que du coup, je peux pas parler comme ça de gens que je fréquente, en fait. Finalement. Ah oui. Mais après, c'est vrai qu'il y avait le côté nuit et côté jour. Voilà. Et ceux qui me connaissent, ben, ça ne les choque pas. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, me disaient, mais tu te prends pour Snoop, tu fais le Mac. Et tout.
Vous avez des amalgames.
Ben, j'aurais pu, mais ma mère, elle m'a éduqué pour ne pas devenir un Mac pour macro. Donc je ne suis pas devenu un macro.
Pas te représenter de la sorte, en tout cas. Rap ou pas rap, quoi.
Oui, après... Dans mon évolution dans le hip-hop, j'ai suivi beaucoup le Temple of Hip-Hop, toute la carrière KRS-One, Boogie Down Productions, mais j'ai aussi suivi tout ce qui était N.W.A. J'ai grandi avec ça. Quand j'étais au collège, j'écoutais du N.W.A. toute la journée. Donc en vrai, j'ai jamais été choqué vraiment par ce que Snoopy faisait ou toutes leurs vidéos qu'ils faisaient. Au contraire, de toute ma génération, on a tous grandi avec ça. Et ça n'a jamais été des trucs tabous, en fait, pour nous.
Oui, et puis tu l'as certainement aussi, comme tu dis, regardé avec du recul aussi, et puis avec une...
Oui, après je m'en suis jamais caché, en fait, d'avoir ce petit côté-là, parce que du coup, ça fait partie de ma vie, donc je ne peux pas maintenant faire comme si...
Non, ça n'existait
pas. Au contraire, j'ai fait des sons là-dessus, je les assume totalement. Après, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais j'aime pas ce côté-là, écoute, on ne peut pas aimer tout, hein. » Et puis moi, après... Tant que j'ai pas perverti des femmes et que je les ai pas orientées vers une mauvaise direction, je suis bien dans ma tête en fait. Voilà.
Bien, toi et ta conscience.
Ouais, ma conscience elle est tranquille.
Eh ben écoute, on va terminer sur ces mots-là, Rudy, sur cette conscience. Ouais. Sur
mais
cette
après,
conscience toujours éveillée.
La conscience,
exactement,
je l'ai dans tout ce que je fais, en fait.
Eh bien, écoute, Rudy. Rudy, merci pour cet échange qui était très intéressant. Et puis, alors, je te souhaite une très bonne continuation.
Merci.
Et pour boucler la fin de l'émission, ce sera avec le son de KRS-One, toujours ta référence, et de son titre Black, Black Et on se dit à très bientôt les Zébrés.
À bientôt.
Don't be afraid. Don't be ashamed. We want black power. We want black power. We want black power.
This is that boom, blah, blah, blah. Some they call it secular. I just call it black, black, black. Marcus Garvey, Book Mendati, bring that army, black, black, black. Malcolm X and Kwame Ture. This is where I'm at. If you wanna talk to me about black, black, black. Haile Selassie the first, Negus Nagas. Let's talk about that, that, that. Kaboom, Nani Maroon and all the Maroons. Let's talk about that, that, that. The real underground railroad, the first subway for black, black, black. The freedom train begins with your brain. Get in on track, track, track. Whether justice or injustice, how do you react, attack? Can you stand there laughing while they shoot us in the black, black, black? This is what some rappers sound like every time they rap, rap, rap. I'm raising up the red and the green and the black, black, black. Even with no cops in the hood, we still hear click, click, clack, clack, clack. I cannot forget my ancestors just because I rap, rap, rap. Look at me from top to bottom. KRS is black, black, black. Get up, get out. Speak up, speak out. Reach out, reach out. This is what black about. Get up, get out. Speak up, speak out. Reach out, reach out. This is what I rap about. Get up, get out. Speak up, speak out. Reach up, reach out. Too many selling out. Get up, get out. Reach up, reach out. Lift up, lift out. Get out. Time to ask the question now. Are you really black, black, black? It is not a mystery. We under attack, attack, attack. If you're chatting fuckery, you hold our people back, back, back. Time to put aside the fantasy and deal with fact, fact, fact. This is not the time to be talking all that crap, crap, crap. Those that talk that crap, crap, crap are those that don't fight back, back, back. You can say what you like, but real skill I never lack, lack, lack. Black is more a consciousness, the way you think and act, act, act. Yo, get up, get out. Speak up, speak out. Reach up, reach out. This is what black about. Get up, get out. Speak up, speak out. Reach up, reach out. This is what I rap about. Get up, get out. Speak up, speak out. Reach up, reach out. Too many selling out. Get up, get out. Reach up, reach out. Lift up, lift out. Get out, light up.
And we beg the president, we beg the federal government. That's all we've been doing, begging, begging. It's time we stand up and take over. Take over. We have to do what every group in this country did. We gotta take over the communities where we outnumber people so we can have decent jobs. So we can have decent houses. So we can have decent roads. So we can have decent schools. So we can have decent justice.